Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et puis sincèrement, Nassim, cette mentalité failure before success, ok, wow. Moi j'en suis revenu.
C'est simple comme l'autre roche, hein. C'est clair comme l'autre roche, hein.
Moi, en tant que boulimique de foot, moi j'ai besoin, je vis foot, je vibre foot, je pense qu'on m'ouvre les veines, il y a des ballons qui sortent.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Salut à tous, c'est Génération After, RMC, 20h-22h, comme tous les soirs de la semaine, bien sûr. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Et toi aussi qui nous regarde sur After Foot TV, sur la chaîne YouTube de l'After. Également, ce soir, autour de la table, tiens, on va commencer par l'homme qui fait sa rentrée cette saison. Autour de la table, notre banquier, un peu uniquement, David Glusman, bonsoir.
Salut Nico, salut la team, quel plaisir.
Salut la team, alors c'est Génération After ici.
C'est un peu comme salut les loulous ou salut la team.
Non, salut la team, je trouve ça bien, moi. Non,
ouais, c'est bien. C'est un petit peu. Non, je sais pas,
faut demander ça. Tu penses que c'est un peu désuet?
On va demander au milieu.
Est-ce que c'est un peu ringard?
Non, non, la team, c'est bien.
La team, ça marche?
Ouais, ça marche.
Ouais, la team, ça passe.
2025?
En plus, avec le ton, etc., je trouve que c'est.
Une bonne rentrée. Une bonne première touche de balle,
quoi. Salut la team.
Ouais.
Pourquoi pas? Je croirais dans l'after, quoi. Bref. David Guzman est là ce soir. Elton Boccolo est là aussi. Bonsoir, Elton.
Salut Nico, salut à tous.
Sobre, efficace. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Très bien. On est ensemble jusqu'à 22h.
C'est bon, c'est les deux là.
Mais tout me va.
D'accord, parce que si tu vas nous
c'était
reprendre.
C'est pour visiter David pour sa première de la saison.
Ça fait deux ans qu'il est là quand même et qu'il montre sa qualité.
Je suis très solide sur les appuis. Moi, je suis très fier de mon salut, ma team. Il n'y a pas de souci.
En plus, Tim, vu son amour pour le championnat anglais, ça colle quoi.
C'est un mot anglais, effectivement.
Team, équipe, squad,
roster.
Squad, exactement. Voilà. Bon, ça part bien, les amis. Ce soir, nous allons parler de l'équipe de France, bien sûr, veille de match, premier match de qualification pour le mondial, face à l'Ukraine en Pologne. Dans un instant, la compo probable que j'ai sous les yeux. On va la détailler et la débriefer également. Se poser la question suivante: quelle est la meilleure animation offensive pour l'équipe de France de manière générale, avec tous les éléments sur lesquels peut compter Didier Deschamps. On parlera aussi de Marcus Thuram. Tiens, on voulait en parler hier, on va le faire ce soir. Sa carrière en bleu est-elle un gâchis pour l'instant? Elton, toi tu veux parler d'Ibrahima Konaté. Ça tombe bien, Deschamps, on a parlé aussi. Et plutôt d'accord avec toi, il n'a pas vraiment lancé son aventure en équipe de France pour l'instant, alors qu'il est un taulier de Liverpool. On va se demander aussi si le calendrier resserré va favoriser la méthode Deschamps. Moins de 15 jours entre la fin de la saison club et la Coupe du Monde en 2026 sur le continent américain. On va s'interroger avec vous au 32-16, bien sûr. Et puis gros débat à 21h. Débat Pablo Longoria. Il a fêté ses 5 ans à l'OM il y a un mois et demi. 172 mouvements arrivée-départ depuis son arrivée, instabilité chronique, mais la stabilité est-elle possible à l'OM? Là aussi on va en parler, et puis on finira avec les infos du jour et notamment un petit débat RC Lens. Le mercato du RC Lens est-il sous-estimé? Voilà pour le menu de Génération After jusqu'à 22h. L'After à 22h avec Gilbert. Salut Gilbert.
Salut les gars, je ne sais pas si vous le savez, mais la cote d'amour de l'équipe de France est en baisse.
Aïe.
Eh oui. Eh oui, ben, plein de raisons qu'on expliquera tout à l'heure à 22h avec Jean-Louis Tour qui est actuellement en Pologne auprès des Bleus.
Pas c'est normal ça.
Donc que Jean-Louis Tour soit en Pologne ou que la Côte d'Amour?
Non, la Côte d'Amour.
C'est très surprenant.
Non, mais surtout qu'en plus les listes deviennent de plus en plus excitantes.
On est d'accord.
Bah, peut-être que ça va repartir avec les nouvelles listes. Mais
les
t'as perdu Giroud, t'as perdu Griezmann,
oui,
des gars populaires.
C'est intéressant.
Par exemple,
pour la France mainstream alors.
Peut-être.
Non, l'Euro 2024 est aussi passé par là.
L'Euro 2024, naze. Non, il y a pas mal de raisons. Deschamps en fin de règne.
Ouais, je sais pas, il y a une nouvelle génération qui est assez rafraîchissante.
Je pense que
on a écouté Jules Koundé hier, qu'on aime beaucoup.
Mais je pense que pour les spécialistes de foot, les vrais spécialistes de foot, quand on voit le renouveau en termes de profil footballistique,
l'équipe de France, ça parle essentiellement et principalement aux non-suiveurs, aux non-consommateurs de foot.
Oui, t'as raison. Peut-être qu'ils se reconnaissent moins dans cette scie.
Exactement.
Comme Pierre Ménès, peut-être. Effectivement.
Nico, pour ça.
Donc, on va en débattre avec Daniel Riolo. Yolo tout à l'heure avec Kevin Diaz et avec Jimmy qui sera avec nous, Jimmy Brown. Par ailleurs, Didier Deschamps qui explique son management avec les jeunes.
D'accord.
Tu vois, il est pas dans
les téléphones.
Il peut faire des causeries plus
difficiles.
Bah, bon, on va en parler. Je pense que Kevin Diaz, qui lui aussi est au contact des jeunes au quotidien.
Bien sûr. Il y a Kevin ce soir à 22h. D'accord.
Ouais.
Ouais, il est en Média Day aujourd'hui.
T'as promis, il est en Média Day. Comme Kylian Mbappé, MJDM, qui s'est exprimé aujourd'hui.
Je ne sais pas si tu as entendu l'avis de Kevin hier, qui t'a imposé.
Ma réponse est non.
Le fait d'arrêter de l'appeler comme ça.
Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre au programme? La gouvernance. On va parler gouvernance du foot français ce soir parce que rien n'avance. Vous avez remarqué qu'il y a, au début du printemps, on nous annonçait la révolution, fin de la Ligue, la Fédé qui reprend la main. Et en fait, au final, un peu à bas bruit, comme on dit en politique, bah, finalement, l'inertie s'est réinstallée. Donc on fera un point.
Toutes les task force, la régulation financière, voilà. C'est vrai qu'on a rien vu sortir. Hein.
Exactement. Donc on va faire un point là-dessus tout à l'heure. Et puis l'Espagne joue ce soir, l'Allemagne joue ce soir, l'Algérie joue ce soir. Bref,
match très important pour l'Algérie.
Donc on fera un point sur tous ces matchs également dans l'after tout à l'heure.
Merci JB, on va écouter attentivement l'after ce soir car Kevin monte à 22h. On va voir s'il est aussi professoral à 22h qu'il l'est à 20h.
Avec moi.
Voilà, avec tout le monde à 20h.
Non, mais oui, c'est vrai.
Beaucoup avec toi, c'est vrai.
Oui.
Bon. Ce sera donc à 20h. À tout à l'heure, Gilbert, pour l'after jusqu'à minuit comme tous les soirs. C'est parti pour Génération After. Les Bleus à la veille de l'Ukraine. Donc, notre cellule équipe de France sur place nous envoie la composition probable ce soir de cette première étape de la campagne de qualification pour le Mondial 2026. Alors, Maignan dans le but, Koundé, Konaté ou Pamecano, Digne, Tchouaméni, Koné devant la défense, et puis quatre éléments offensifs, Doué, Olise, Barcola, Bappé. Vous nous appelez au 32-16 pour nous dire ce que vous en pensez, si elle vous plaît tout simplement également, si ce visage en 4-2-3 dont on va parler aussi vous intéresse, un nouveau Deschamps. Faut-il croire aussi en un Deschamps, un système new look, hein, ce 4-2-3-1 qu'on a vu contre la Croatie, 2-0, qu'on a vu contre l'Espagne, défaite 5-4. Il y a une question d'équilibre. On écoutera Kylian Mbappé qui a un avis là-dessus. Il est en conférence de presse tout à l'heure. Les gars, d'abord un mot sur la composition. Est-ce qu'elle vous ravit? Qu'est-ce que vous changeriez? Elton, tu ferais quoi?
Pour moi, elle est très expérimentale. À mesure, on a quand même les deux Parisiens alignés d'entrée entre Barcola, Désiré Doué, Olise dans un rôle axial. Et donc, moi, je vais davantage regarder la ligne de 3 parce que Kylian Mbappé, on connaît. Bon, même si Kylian Mbappé, il doit parfaire son nouveau rôle d'avancante. Mais toujours est-il que moi, ça m'intéresse encore plus sur un match face à l'Ukraine qui était quand même présente lors du dernier Euro, même si passé à côté. Donc moi j'ai envie de voir le secteur offensif, comment ils vont réagir, parce que là pour le coup il y a des opportunités. Dembélé n'est pas là, un Barcola il doit s'affirmer, parce que un Barcola il est là depuis quand même 2 ans en équipe de France et c'est le moment de montrer qu'il peut être compétitif dès la première minute de jeu. Désiré Doué il est un peu plus novice, même si encore une fois il a un statut qui a changé depuis cet été. Et Michael Olise, en fait c'est toujours la même problématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Michael Olise en équipe de France tu jettes la pièce en l'air. Ça veut dire qu'il est capable de te faire un gros match contre la Croatie au match retour, de la même manière que sur le match face à l'Espagne, et ben il est un peu plus en difficulté.
Après, il y a un échantillon encore faible pour avoir véritablement une impression globale aboutie du côté de Michael Olise.
Maintenant, ouais, c'était sa première année.
Maintenant, moi, je suis très excité de voir cette ligne de 4 encore une fois, parce que le dernier rassemblement, on avait eu un sentiment très contrasté entre cette défaite contre l'Espagne, cette défaite encourageante, même si j'aime pas ce terme, entre le retour de 5-1 à 5-4 et même les 30 premières minutes globalement où il y avait eu pas mal de situations pour l'équipe de France, et ce match contre l'Allemagne où au final tu gagnes, mais j'avais trouvé la première mi-temps très 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 compliquée dans le jeu. Donc j'ai envie de revoir cette équipe de France de 4 offensifs, même le double pivot, parce que pour moi Tchouaméni et Manu Koné ne sont pas du tout les mêmes joueurs, ne les enfermons pas dans les mêmes capacités. Moi j'aime beaucoup Manu Koné et je trouve ce qu'il fait en équipe de France est souvent très intéressant avec le ballon et avec sa personnalité. Je l'ai déjà dit pour le PSG, mais Barcola, j'attends beaucoup de Barcola cette saison. J'ai l'impression que ça va être son année.
Alors pourquoi?
Je sais pas,
c'est quoi, c'est une intuition?
Depuis ce matin
je l'ai dit dans les émissions, j'ai le sentiment que Barcola, s'il règle ses petits soucis notamment dans la finition et dans la nonchalance, il peut marcher en équipe de France et au Paris Saint-Germain et s'imposer à gauche, parce que entre lui et Kvaratskhelia il va avoir une vraie concurrence, et je pense qu'il a les moyens, de par son profil qui diffère par rapport au reste de l'équipe du PSG, de s'imposer. Et de la même chose pour l'équipe de France, vu la situation de Kylian Mbappé, je vois pas qui à gauche pourrait incarner ce poste-là. Il y a d'autres solutions, mais je pense que Barcola peut avoir un boulevard si véritablement il s'en donne les moyen à lui de jouer, mais moi j'ai envie de l'accompagner et de le pousser cette saison, parce qu'il peut arriver à maturité dans son football. Désiré Doué, qui lui aussi en équipe de France, il avait fait une belle entrée contre la Croatie, mais son dernier rassemblement, après il y avait des circonstances atténuantes par rapport à son après-finale de Ligue des Champions.
Ouais, 2 jours plus tôt, ils étaient sur les Champs-Élysées.
C'est pas là où on va le juger, mais Désiré Doué, on va encore avoir un peu plus de biscuits. Et puis Mbappé, on en a parlé hier avec Kevin et avec Elton sur son positionnement, comment il va jouer au poste de numéro 9, est-ce qu'il va être lié
libre. Est-ce que Deschamps va lui donner un cadre?
Est-ce que tu penses dans ce système-là, il doit jouir d'une grande liberté, parce que pour le coup, il va être entouré encore une fois là.
Moi,
tu vas avoir Doué à gauche. Tu vas avoir
Marco à droite,
Olise en 10 et Mbappé qui sera vraiment dans un rôle de 9.
Maintenant, moi je pense que, et je terminerai là-dessus, sur ce fameux 4-2-3-1, je préférerais voir Olise à droite, Barcola à gauche, Mbappé en numéro 9, et par contre avoir un Désiré Doué à côté de Manu Koné sur un milieu à 3. Et avec un Doué qui peut aller cette ligne de 4 et cette ligne de 2. C'est-à-dire vraiment faire cet escalier-là. Et je sais pas, enfin, on n'en prend pas la direction, mais je dis juste que, là, tu vas être face à une équipe de l'Ukraine, normalement, qui est à ta portée. Mais quand il y aura des très, très gros matchs, j'ai des doutes là-dessus.
Bon. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit si expérimental que ça, en fait, puisqu'Olysée, de toute façon, son poste préférentiel, c'est justement dans ce demi-espace, en fait, côté droit. Et Désiré Doué, il a été utilisé plusieurs fois dans le cœur du jeu, en fait, par Luis Enrique. Moi, dans l'animation offensive, je voudrais vraiment insister sur le rôle des latéraux. Parce que là, il y a quelque part un choix fort. C'est-à-dire que t'as Jules Koundé qui peut former une défense à 3 un peu asymétrique et Luc Hadding de l'autre côté. Et sur les deux choix aussi, il est allé sur les choix quelque part les plus défensifs. Donc peut-être avec plus de liberté justement pour ce quatuor offensif. Il compense le fait d'aligner 4 offensifs pur par le fait d'aligner Koundé qui est un central de formation et de l'autre côté Luc Hadding qui a plus de capacité offensive que Théo Hernandez. Donc moi, ce choix des latéraux dit
il a plus de qualité offensive que Théo Hernandez, Luc Hadding?
Non,
plus de qualité offensive que défensive, je veux dire.
Il a plus de qualité. Enfin, il a un profil défensif plus sûr que Théo Hernandez.
D'accord, c'est ça que j'ai compris. L'inverse.
Donc en fait, ça nous dit beaucoup de la liberté dont vont jouir les 4 joueurs offensifs. Ce choix et ce choix des latéraux dit beaucoup parce que t'as un Malo Gusto qui a un profil bien plus offensif et aussi un
qui a fait des belles perfs en équipe de France. Hein.
Exactement.
Bah qui a fait des belles perfs contre l'Espagne.
Qui a fait des belles perfs en équipe de France. Donc là, je pense que le choix des latéraux, vous avez parlé du choix des offensifs, nous dit beaucoup des responsabilités.
Maintenant, quand je vois la compo, moi, la première impression que j'ai, la première réflexion. Que j'ai envie d'avoir, c'est comment en fait Didier Deschamps va nous servir un plat très très moyen avec autant de possibilités.
En tout cas, là, a priori, ce sera pas le cas. Hein? La question, c'est qu'est-ce qui nous servira dans un gros match en Coupe du Monde.
En quoi ce sera pas le cas?
Non mais la compo là, c'est pas un plat moyen là.
Non, c'est-à-dire que avec
sur les choix,
sur le contenu, c'est-à-dire
que sur les consignes qu'il va leur donner.
La compo est excitante, les 4 de devant sont excitants. Maintenant, tu sais très bien que tu vas arriver à la 30e minute devant ton écran de télé, tu vas te dire bon, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça marche, est-ce qu'on est satisfait. Moi, j'ai cette impression là, à lui de me faire mentir bien évidemment, mais c'est souvent le cas.
Walid, j'ai aussi envie de responsabiliser les joueurs parce que il y a la volonté de Didier Deschamps, c'est d'avoir une équipe qui aujourd'hui ton secteur fort, c'est l'attaque. Donc on est sur une équipe de France qui a vocation de se déséquilibrer. À un moment donné, il va falloir que les joueurs ils se responsabilisent.
Mais ça pourra pas marcher en autogestion.
Je te dis pas
ça pourra pas marcher avec des joueurs comme Barcola.
Je te dis pas en autogestion, mais par rapport à ce qui s'est passé contre l'Espagne, souviens-toi de ce qu'on disait. On expliquait qu'après l'Espagne, Deschamps allait s'appuyer sur ça pour revenir à une formule sécuritaire. Force est de constater qu'il ne l'a pas fait. Donc il y a de la conviction dans ce qu'il veut faire. Et moi, par rapport à ça, j'ai envie de voir les joueurs qui, à un moment donné, ils le lui auront sur le terrain.
Mais les joueurs vont avoir les intentions. Parce que si tu veux parler du match contre l'Espagne, moi j'avais le sentiment, Espagne-France, du côté français, c'est assez ça l'Espagne de Lamine Yamal, etc. On va leur montrer, nous, c'est ça le football français. Mm-hmm. C'est ça, tu vois là, un peu dans une guerre d'ego individuel.
Nous aussi on a un vivier, la passe d'armes
Yamal Dembélé.
Exactement. Nous aussi on a un vivier, nous aussi Désiré Doué, nous aussi Kylian Mbappé. On va vous montrer. Donc il y avait beaucoup d'intentions positives sur ce match-là. Maintenant, quand tu vas sortir de ce match-là et que tu vas tomber face à des équipes qui vont t'attendre en bloc bas, si pour moi Didier Deschamps ne met pas quelque chose en place avec un vrai cadre, avec des vrais rôles, je pense qu'on va être déçus. En tout cas, j'en ai bien peur parce qu'on a encore des jeunes joueurs qui, on l'a dit avec Olise, première année en équipe de France, Barcola, il était là à l'Euro, mais il n'est pas encore affirmé. Que dire de Désiré Doué, de Ryan Cherki, même s'il n'est pas là, et de surtout Kylian Mbappé qui sera dans un rôle central et qui, pour moi, en équipe de France, se démultiplie
à l'excès
et pas à raison.
Donc, quand tu dis un cadre, c'est un rôle établi, précis pour chaque élément.
Une animation offensive définie. Voilà. Avec un travail, avec un boulot.
Il dit qu'il n'a pas le temps.
Ouais, bah, ça se comprend.
Il a dit je n'ai pas le temps de le faire.
Mais ça attends, se comprend. Mais il peut quand même déterminer des zones. Il peut quand même essayer de travailler deux, trois aspects, deux, trois schémas quand même, non?
Vous écoutez Génération After avec Walid, David et
l'émission qui compte.
20h16. Écoutons Kylian Mbappé, justement interrogé sur ce 4-2-3-1 présumé déséquilibrant pour l'équipe de France.
Je pense que ça apporte beaucoup de choses à l'équipe. Je pense que ça peut apporter une certaine mobilité, offensive, parce qu'en fonction des profils et quand on voit les profils qui ont joué ces derniers temps, il y a beaucoup de mouvements. On essaye de toujours garder une position, mais c'est pas toujours une position fixe, ce qui permet de nous créer pas mal de situations, de permet d'avoir une fluidité offensive. Après, ça a des risques en termes d'équilibre, ça a des risques au terme défensif, et c'est là où il faut trouver le juste milieu pour que ça nous permette d'appuyer sur nos forces sans que nos faiblesses deviennent des trop grosses faiblesses, parce que je pense qu'on a pris trop de buts et on a concédé trop d'occasions lors du dernier rassemblement.
Bon, il parle évidemment de déséquilibre, le risque que ça implique un tel système. Est-ce que vous pensez que sa structure, cette équipe de France, avec ses qualités défensives, les qualités de repli de certains éléments offensifs, c'est vraiment risqué d'aligner un tel système?
Non, mais là-dessus, moi, je suis d'accord avec ce
t'en
que tu dis.
T'en prends 5 contre l'Espagne. Dès que la montagne s'élève, t'en prends 5 contre l'Espagne.
Oui, mais si d'accord, mais ça, c'est
Yemi imprécis, tu dois en prendre 4 contre l'Allemagne.
La première mi-temps contre l'Allemagne, elle est honteuse. Donc voilà, les gars, est-ce que là.
Après, attention, c'est quelque chose qui est pour moi à parfaire, parce que à un moment donné, il y a un péage à passer pour justement devenir une équipe beaucoup plus dangereuse.
C'est quand le péage, c'est où?
Bah, le péage, aujourd'hui, t'as un terrain d'essai qui est parfait. Pour moi, c'est des qualifications où t'as des équipes qui sont à ta portée. Et là-dessus, tu vas pouvoir, entre guillemets, bah, tenter des choses, peut-être avoir un droit à l'erreur que tu ne pourras pas te permettre sur la phase finale. Et donc, du côté de l'équipe de France, c'est à nous aussi de se dire qu'à un moment donné, on peut pas seulement regarder le verre à moitié vide, mais on peut aussi regarder le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est quoi? C'est une équipe de France qui est capable de mettre des buts de manière diverse. C'est-à-dire avec un Kylian Mbappé, avec un Désiré Doué, avec un Michael Olise, etc., etc.
Non, mais on n'a même pas
parlé de Dembélé.
On a envie de l'accompagner, cette équipe de France, cette nouvelle équipe de France. Mais le problème, c'est qu'on est quand même vacciné avec Didier Deschamps et on sait très bien que sur la dernière année, l'équipe la plus compétitive sur la dernière année de l'équipe de France, c'est celle qui a joué à San Siro. En Italie
pour en 4-3-3.
Non mais pour arracher sa qualification contre la Croatie en quart de finale. Et c'est avec qui? C'est avec des soldats.
Enfin, la première place, ils étaient déjà qualifiés.
Oui, enfin la première place, pardon. C'est avec des soldats, c'est avec des joueurs dont on n'attendait pas, avec Nkunku en 10, Marcus Thuram, Kolo Muani, des mecs qui vont à la baston, qui vont boxer. Donc aujourd'hui, quand tu vois le déséquilibre, moi je l'accompagne. J'ai envie d'avoir ça. J'ai envie d'avoir ces quatre offensifs. Je n'ai pas envie d'être déçu contre l'Ukraine. Mais tu sais très bien qu'à la Coupe du Monde, est-ce que tu peux aller avec cette équipe-là?
Voilà, c'est ça.
Et surtout avec ce
cuistot. Cette équipe, c'est un vœu de supporter.
Surtout avec ce cuistot.
Attention, pour moi, c'est très important parce qu'aujourd'hui, ton vivier, tes forces en présence t'incitent à ça. Aujourd'hui, tu peux capitaliser donc sur un joueur qui te met 40 buts du côté du Real Madrid, sur un joueur qui a été MVP en finale de Coupe du Monde, sur un autre joueur qui probablement sera Ballon d'Or. Donc aujourd'hui, du côté, même à travers l'opinion publique, tu vas devoir capitaliser là-dessus et harmoniser tout ça. Donc, quand tu regardes ces forces en présence, tu peux pas te dire, entre guillemets, je vais davantage regarder vers l'arrière et baser mon équipe sur la solidité des
Champs. L'opinion publique, il s'en fout des Champs.
Enfin, l'opinion publique.
Il a 9 mois de l'acquis, l'opinion publique, enfin, l'image. L'opinion publique, c'est pas un sujet.
Et même à travers ton groupe, parce que
aujourd'hui,
il y a des joueurs, Nico, par rapport à leur
stature. Tu vas frustrer des grands talents français.
Par rapport à leur stature en club, il y a des joueurs aujourd'hui qui peuvent revendiquer des choses en disant je suis capable de le faire en équipe de France.
Il a raison sur le deuxième point. Pour moi, il a raison sur l'opinion publique, je suis d'accord avec toi Nico, mais sur le deuxième point, sur la prochaine Coupe du Monde, s'il n'arrive pas à faire briller notamment ses outils offensifs, il peut avoir des remous entre les matchs, notamment sur ses choix d'hommes et vu le matériel qu'il a. Mais ça restera, je suis désolé Elton, le gros doute de Didier Deschamps.
Il va le faire, mais est-ce qu'il va bien le faire,
c'est la question.
Mais Wally, t'as parlé d'un terme qui est pour moi très important. T'as parlé de soldats, entre guillemets, de joueurs discipliné. Aujourd'hui, la nature des séjours sur le secteur offensif en équipe de France, elle a changé. Ce n'est pas des soldats, c'est des joueurs qui, individuellement parlant, ont une qualité qui est extraordinaire.
Oui, mais il va falloir gagner les matchs.
Il va falloir gagner les matchs.
Les gars, ces quatre-là, on peut les citer. Pour l'instant, personne n'a vraiment lancé son histoire en équipe de France.
Bien sûr.
Doué l'a pas lancé. On va être patient, évidemment. Même si la Coupe du Monde arrive, elle est dans 10 mois désormais. Olise l'a pas lancé. D'où il a pas lancé. Barcola l'a pas vraiment lancé.
Mais plus. Moi, tu
parles Dembélé, le nouveau Dembélé, l'a pas lancé aussi. David.
Cherki
non plus.
Cherki l'avait pas lancé, qui est absent.
On n'a pas d'assurance, mais, à 10 mois de la Coupe.
Mais il n'y a pas d'assurance. C'est justement pour ça que moi, j'ai parlé de terrain d'essai avec les qualifications. À un moment donné, il va falloir que les gens se responsabilisent.
Pour moi, c'est pas un terrain d'essai. Tu dois être premier. C'est une poule de quatre. Tu dois être premier. Et si t'es pas premier, tu bascules dans un système de tournoi avec les équipes qui sont reversées de la Ligue des Nations. Donc, c'est pas comme si anciennement, quand t'avais une poule de 6, avec les premiers et les meilleurs deuxièmes. Là, t'as plus de terrain d'essai.
Enfin,
là,
terrain d'essai dans le sens, là, pour moi, c'est des équipes qui sont abordables. Pour
oui,
toi,
mais abordables, mais pour moi, t'as pas une marge de manœuvre telle face à l'Ukraine qui puisse te.
Mais la marge, c'est par rapport aux concurrents, enfin, par rapport aux adversaires. Tu vas pas jouer l'Espagne tous les week-ends.
Non, mais là, ce que je veux dire, c'est qu'Elton dit qu'il faut utiliser justement cette phase de qualification pour le mondial.
Et tu travailles quoi, en fait, David?
Non, mais c'est la réalité du football de sélection, David.
Mais tu reviens, en fait, si tu veux, une formule qui te permet justement d'être compétitif en compétition.
Ah, mais ce que je veux te dire, c'est que sauf dinguerie, tu perdras pas ces matchs-là. Tu diras
tu peux en perdre. Bah, l'Ukraine, tu peux le perdre. Le premier match.
Je rappelle l'Ukraine. Le groupe, t'as Azerbaïdjan, Islande, Ukraine. Voilà.
Non,
excusez-moi. Il faut terminer premier pour Islande. Ce que j'ai dit, oui. Azerbaïdjan, Islande, Ukraine.
Excusez-moi, les gars, quand même. Si tu perds les matchs.
Bah, on va voir.
Non, mais c'est pas interdit, en fait.
Ah oui, c'est pas interdit.
C'est que l'Ukraine fasse une grande campagne de qualif, par exemple, et que toi, tu lâches des points demain soir en Pologne face à l'Ukraine. Et que voilà, il va falloir l'Ukraine est supérieure à l'Azerbaïdjan, l'Ukraine est supérieure à l'Islande.
Oui, mais l'équipe de France, l'équipe de France doit bomber le torse quand même face à ces équipes-là, rassurez-moi.
Oui, sinon
t'as rien à faire en Coupe du Monde.
Et je te dis pas l'inverse, mais quand même.
Là, on les prend en fait comme des équipes, comme des, enfin, des barreaux d'essai, comme des sparring partners.
Faire un nul à Reykjavik,
c'est pas des sparring partners en fait.
Oui, non, mais ça, bien évidemment, on s'en est d'accord. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Nico, sur les 4 joueurs que t'as cités, moi, pour moi, là.
Il n'y en a aucun qui m'a enflammé pour l'instant l'équipe de France.
Pour moi, là, les vrais 4. C'est Kylian Mbappé, Olise, Ousmane Dembélé, et il m'en manque un.
Doué.
Et Bradley Barcola.
Bon. Ah bah tu vois, même là, on n'est pas d'accord.
Bon, Marcus Thuram, tu l'as sorti, ça y est.
Bah Marcus Thuram, on en parlera après. Mais pour moi, les vrais quatre qui peuvent prétendre aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que Barcola était là à l'Euro, mais ces quatre-là, aujourd'hui, il va falloir les faire jouer, il va falloir bien les faire jouer. Oui, et surtout que Dembélé, au trophée UNFP, il a dit qu'il voulait avoir un rôle axial, que Didier Deschamps a expliqué que Kylian Mbappé était devenu et essentiellement un joueur axial, que Olise est capable de jouer numéro 10 au Bayern Munich, en équipe de France avec les Jeux Olympiques notamment ou à droite. Donc ça va être surtout ça l'inconnu, hein. Il va falloir que ces quatre là soient véritablement fiables en équipe de France.
Ouais, mais pour autant
attends deux secondes, je vais accueillir Luc Elton qui est patient depuis de longues minutes. Salut Luc.
Bonsoir tout le monde.
Salut, bienvenue dans Génération After RMC. On est heureux de t'accueillir avec Walid, David et Elton. Bon, ton regard déjà sur l'animation offensive, celle-ci, ce 4-2-3-1, le déséquilibre voulu visiblement par Deschamps, combien de temps ça va tenir, on ne sait pas encore. Qu'est-ce que t'en penses toi avec cet amoncellement de talents offensifs?
Bon, bah, je pense que comme tu l'as présenté... Et comme vous en avez un peu parlé durant l'émission, on est sur un Didier Deschamps qui on va dire, est plus spectateur, en tout cas qui subit les joueurs qu'il a plus qu'il ne choisit ou impose réellement des choix. Hein. On saurait depuis un moment que Deschamps est un réel tacticien de pensée, de métier, de théorie. Hein. C'est quelqu'un qui, comme il nous le surine tout le temps, veut avant tout qu'un groupe vive bien. C'est pour ça que Corentin Tolisso n'est pas là, alors que pour remplacer Ryan Cherki, on met Zaïre Emery. Mais bon, je vais pas rentrer dans le débat.
Luc, tu étais lyonnais ou pas?
Ah, évidemment.
Ah oui, voilà. Okay. Moi, je te suis sur Tolisso, mais je précise aussi que tu es lyonnais quand même. Ouais.
Voilà, non, mais il faut le préciser. Hein. C'est,
Après, il n'y a pas que les lyonnais qui le pensent, hein, Nico.
C'est ce que je viens de dire. Non, je suis d'accord avec lui.
Il n'y a pas que les lyonnais qui le pensent, oui, on est tout à fait d'accord, parce que des fois, il y a des choses qui crèvent les yeux. Encore une fois, que penser de ce paquet offensif, si ce n'est qu'il est totalement interchangeable, tellement il y a peu de, comment dire, tellement il y a peu d'identité dans la manière de jouer de Didier Deschamps. C'est-à-dire que quasiment tous les joueurs sont interchangeables dans ce qu'on nous propose. Dembou, vous pouvez le mettre en pointe, à gauche, à droite. Mbappé, bon, il s'est imposé dans l'as comme numéro 9, alors qu'en réalité, c'est pas un numéro 9, alors qu'on a des Mateta, des Hugo Ekitike, même un Marcus Thuram qui serait plus légitime dans le rôle, un Barcola, je ne dirais rien sur Barcola par pur clubisme. Franchement, elle ne me dit rien. Et elle va, en fait, elle va faire tout seule ce qu'on attendait. C'est Didier Deschamps est totalement spectateur dans son propre, avec sa propre équipe.
Ouais, c'est des messages qui reviennent également sur le chat de la chaîne YouTube. T'as Geeks qui nous dit, Dédé joue au dé, simplement.
Après, attention, moi, je suis en désaccord. Je suis en désaccord avec Luc, parce qu'en fait, il faut pas sous-estimer un truc. Il y a trois réalités qui sont arrivées en équipe de France. Pour moi, la première réalité, c'est la mise en retrait progressive d'Olivier Giroud et d'Antoine Griezmann. C'était des joueurs qui étaient des joueurs structure de Didier Deschamps. La deuxième La deuxième réalité, c'est le repositionnement axial de Kylian Mbappé. Et la troisième réalité, c'est l'explosion de talent offensif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les cartes, tu dois trouver une association, tu dois trouver une alchimie. Et donc, pour moi, il ne subit pas.
Ah, mais les deux premiers.
Mais non, les deux premiers, si, c'est une nouvelle réalité.
Olivier Giroud, depuis l'Euro 2021, il n'est plus dans les plans. Tu ramènes, t'es passé devant.
Il y a encore un an, à l'Euro 2024, c'était Kylian Mbappé à gauche. Et personne ne discutait ça.
Ah bon?
À gauche, avant l'Euro 2024.
Non, mais avant l'Euro 2024, Giroud part pas titulaire à l'Euro 2024.
Non, mais je te parle de Kylian Mbappé. Ouais. Avant, c'est encore aujourd'hui. Il y en a qui pensent que Kylian Mbappé, c'est à gauche et on ne discute pas.
Oui, les gens, Didier Deschamps travaillait déjà. Le match contre l'Allemagne, le France-Allemagne au Parc OL, c'est Marcus Thuram qui démarre titulaire. Giroud n'était plus dans le.
Mais parce qu'aujourd'hui, Didier Deschamps, ça doit s'adapter à plusieurs réalités. Et donc, moi, je ne pense pas qu'il subit la situation aujourd'hui. Il fait face notamment à de nouvelles réalités des joueurs qui sont arrivant en équipe de France, qui sont inexpérimentés, des joueurs qui doivent lancer leur campagne, enfin leur aventure en équipe de France comme Dembélé, et tout ça fait que
subir ou pas subir, la question c'est est-ce que tu penses que Didier Deschamps est content du vivier offensif?
Il est très content du vivier offensif.
Il est très content.
On en parle dans un instant. T'as un doute là-dessus toi visiblement. On en parle dans un instant. Luc, merci d'être venu sur RMC dans Génération After. Je rappelle également que vous pouvez nous envoyer vos messages sur notre nouveau numéro WhatsApp, 0612 424 424 0612 424 424, pour envoyer vos messages. Tu vois, il y a Salas qui nous dit l'équipe de France n'a pas de plan de jeu contrairement à l'Espagne, quelque chose qui travaille depuis les petites catégories, une continuité dans leur formation et dans leur sélection, ce qui n'est pas le cas chez nous. Reste avec nous dans un instant. Tiens, on va parler de Marcus Thuram, c'est un sujet un peu épidermique, vous en parlez déjà sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Pour l'instant, effectivement, il n'a pas lancé sa carrière en équipe de France. Allez, la suite dans un instant. Walid David Elton sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Elton Moukoulou, David Guzman, Walid Acharchour, RMC Génération After jusqu'à 22h bien sûr. Alors, on parle de l'équipe de France demain soir face à l'Ukraine. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais comment ça, vous pouvez douter de l'équipe de France, ce groupe-là, Azerbaïdjan, Islande, Ukraine. Moi, je dis toujours attention quand même. Ça va très très vite.
S'il vous plaît.
Non, c'est pas écarté.
Donc en fait, l'équipe de France.
Pas du zèle dans la prudence.
Non, l'équipe de France ne va pas.
Attention,
pas ce que je te dis, mon
demain, l'équipe de France peut perdre. Mais
ne sois pas si confiant non plus, tu vois.
Oh, moi, je suis très confiant.
Non, mais on peut être confiant et ne pas considérer les adversaires comme un galop d'essai.
Ah c'est, non, c'est, pas c'est du
juste
tout.
On parle de deux choses différentes. Que l'équipe de France ponctuellement peut être accrochée, voire battue, ça c'est envisageable. Et que l'équipe de France aille à Coupe du Monde, c'est clairement envisageable.
Non, mais on va arrêter de raconter des conneries. C'est-à-dire que si tu ne fais pas 15 points sur ce groupe, c'est une anomalie.
Ah, tu sais, sort de l'équipe de France.
Tout à l'heure, t'as cité Marcus Thuram.
Il y a plus d'exigence en fait chez Nico Jamin.
Marcus Thuram. Si, il y a l'exigence en fait. Bien sûr qu'il y en a. Mais je dis, calme-toi, jeune Padawan. On va voir.
Ok, jeune Padawan.
On fera déjà un point demain soir.
Ok.
D'accord.
Skywalker.
Voilà. Marcus Thuram, bien sûr. On voulait en parler ce soir. On voulait en parler déjà hier soir. Je rappelle quand même ses stats en bleu, hein, Marcus Thuram. Hein, 30 sélections. 4 buts pour l'instant. C'est très en dessous de ce qu'il fait avec l'Inter, dans une configuration très différente, bien sûr. À deux devant avec Lautaro, ce qui semble lui aller beaucoup mieux qu'en équipe de France sur un côté, souvent. Avec l'Inter, c'est saison dernière, 50 matchs, 18 buts, 9 passes. Cette saison, pour l'instant, il part assez fort. Hein. 2 matchs, 2 buts, une passe décisive. Tu voulais dire hier que c'était un gâchis pour l'instant, Marcus Thuram en équipe de France.
Ouais, c'est un gâchis.
C'est lui qui gâche ou c'est Deschamps qui le gâche sur son utilisation?
Les deux ont une part de responsabilité parce que moi, avec Marcus Thuram, je suis passé quand même par plusieurs étapes. Au début, quand il arrive en équipe de France, bon, de manière caricaturale, je me dis que l'affinité que Didier Deschamps a avec son père, qui fait que il est intégré dans la vie de groupe, quand il est à moi, il était à Gladbach à ce moment-là.
Ouais, il était à Gladbach.
Je comprends pas pourquoi il est là, mais quand il est en équipe de France, sur son côté, il fait pas tâche. Je crois qu'il avait fait l'Euro 2021 où il termine contre la Suisse. Il termine contre la Suisse. Il y a un match aussi au Portugal.
Bah, c'est son meilleur match en équipe de France.
Exactement. Donc finalement,
c'est contre l'Autriche en poule à l'Euro où j'ai trouvé vraiment intéressant.
Portugal 1-0 à Lisbonne.
Ouais, il avait été très bien.
donc tu dis, tu sais pas pourquoi il est là, mais quand il est là, bah il fait le taf, il a le bon état d'esprit, mais j'étais pas subjugué par le joueur. Et depuis qu'il est arrivé à l'Inter Milan, par contre, il m'a totalement retourné. Ce Marcus Thuram en Ligue des Champions, en Serie A, dans ce tableau noir de Simone Inzaghi, là tu te dis que même avec Kivu, il fait un super début de saison. Tu te dis purée, ce profil là, quand même, on n'arrive pas à l'intégrer, alors qu'il pourrait totalement être compatible avec Kylian Mbappé dans une attaque à deux ou un Mbappé en attaquant d'aile, comme le disait Kevin hier soir justement. Et puis même lui, quand il joue en équipe de France, on est en fait la fameuse trajectoire que je viens d'évoquer précédemment. En fait, on est à l'inverse, quoi. C'est-à-dire depuis qu'on a Marcus Thuram, qui a une vraie hype en club, et ben en équipe de France, il passe à côté. Je parlais du match contre l'Allemagne au Parc OL où il avait été transparent. L'autre match contre l'Allemagne avant la Coupe du Monde des clubs, après la finale, même s'il y avait la finale, comme pour Désiré Doué comme excuse, il avait joué un peu à gauche, il avait été vraiment pas bon. Et tu te dis bon, les statistiques, son apport, parce qu'il n'y a pas que les statistiques dans le football, mais même son apport.
C'est une sorte de maladresse aussi.
Et en fait, au fur et à mesure, quand on regarde ce qui se passe en attaque, parce que j'aimerais aussi me projeter moi dans le débat de Marcus Thuram, s'il n'arrive pas à trouver sa place sur le terrain, parce qu'attention, en dehors, il est très très apprécié.
Bien et, sûr, c'est un leader.
Avec Kylian Mbappé et le reste, on le voit dans toutes les vidéos qui circulent sur les médias de. Sur le média de la Fédération Française de Football, il met une bonhomie dans le groupe, mais quand on regarde ce qui peut se passer au poste de numéro 9, Kylian Mbappé, les prétentions d'Ousmane Dembélé, et Kitike qui peut prendre
Tu vas jusque là? T'es en train de me dire que sa place dans le groupe France est
en
danger?
Non, je me pose la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de Marcus Thuram?
Mais elle devrait être en danger, bien sûr.
Celui qui est en danger pour moi, c'est Kolo Muani.
Oui.
Vraiment. Mais je dis juste que Marcus Thuram, déjà avoir la frustration de se dire qu'il sera jamais ce joueur de l'Inter en équipe de France, que j'ai l'impression que c'est acté pour tout le monde.
C'est une question de système. On est plus
naïf par rapport au système, etc. Bon,
je vais écouter David aussi là-dessus.
Mais pour moi, en fait, c'est même pas qu'elle est en danger, c'est qu'elle devrait être en danger. Et c'est un miracle vu ses prestations en équipe de France que Marcus Thuram, qui je crois que sa première sélection il y a 5 ans ou il y a 4 ans, il a peut-être une ou deux prestations marquantes. C'est quand même un miracle qu'il ait autant de deuxième, troisième, quatrième, cinquième chance. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu en fait ce nombre de deuxième chance en équipe de France. Pour moi, tu parlais de Kolo Muani, sa place est en danger, peut-être par choix de club aussi, parce que à Tottenham,
Moi, je suis sûr que s'il met 15 buts en PL avec Tottenham, il y sera. Hein.
Mais Kolo Muani a été bien plus valeureux, bien plus utile et a des prestations bien plus marquantes en équipe de France que Marcus Thuram. Moi, Marcus Thuram, je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il faut complètement et comme tu l'as dit, oublier le Marcus Thuram de l'Inter, qui joue dans un schéma qui le met énormément en valeur. Et en équipe de France, pour moi, il a eu trop de chance. C'est même pas question s'il devrait y être, c'est qu'il devrait ne plus y être.
Dans le groupe,
trop dur. Non, mais pour moi, il a eu trop de chance, Walid. Vraiment, un Mateta, 4 ans, qui est performant à Crystal Palace contre toutes les grosses tiendres en première ligue. Tu vas me dire que Marcus Thuram, avec toutes les chances qu'il a eues.
Mateta, il passe pas devant Thuram quand même.
Ah, mais pourquoi pas?
Avec tout le respect que j'ai pour Jean-Philippe.
Ah, mais pourquoi pas? Mais avec un profil différent. En pointe, Mateta, avec ce qu'il a fait, notamment aux Jeux Olympiques, avec ce qu'il fait avec Crystal Palace, notamment dans les gros matchs. On l'a encore vu au Charity Shield contre Manchester City. Tu lui laisses même pas de chance.
Non, mais moi aujourd'hui, je pense que Marcus Thuram dans la tête de Deschamps, c'est même plus un numéro 9 en équipe de France, c'est un ailier gauche.
Et même ailier gauche aujourd'hui,
parce que si tu regardes bien les meilleurs matchs de Marcus Thuram, finalement c'est à la Belgique quand il gagne 2-0 là avec le but de Dembélé, il joue à gauche.
Et l'Autriche, il joue à gauche aussi.
Il est plutôt bon. Et le dernier match contre l'Allemagne, il le fait jouer à gauche avec Kolo Muani à droite et Mbappé en numéro 9.
En fait, le truc contradictoire, c'est qu'en équipe de France, il y a un poste qu'il n'utilise plus, enfin, depuis plusieurs années, entre Gladbach et Guingamp. Parce que, en fait, je suis totalement d'accord, parce que à l'Inter, c'est l'attaque en structure de cette équipe. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Là, il passe, en fait, de l'Inter, où, en fait, c'est Brivante de Camp. Tout est organisé, tout est carré. Alors, en équipe de France, c'est une garçonnière. C'est-à-dire, les gars, vous êtes là, vous êtes sur le terrain. Vous êtes des individualités. Vous pouvez vous exprimer, alors que lui, ce n'est plus sa réalité. Donc aujourd'hui, on a un joueur, son standard, c'est quoi? C'est Coupe du Monde 2022, capacité à impacter face au Maroc, face à l'Argentine.
Mais ça, Deschamps, il aime bien.
Mais en fait, moi, j'ai bien peur qu'il soit victime autant du renouveau que du renouvellement du secteur offensif de l'équipe de France. Parce qu'à un moment donné, s'il y a les joueurs de côté qui s'affirment, comme Barcola, la cause, elle l'a entendue.
Non, mais David va plus loin, lui, il le sort même du groupe. Je vais poser la question à Paul, tout de suite, c'est au 32-16. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, David. Paul, bonsoir.
Toi, pour toi,
bonsoir à tous.
Salut.
Bienvenue. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marcus Thuram? Je te pose la question tout de suite. Hein. Est-ce qu'il a encore sa place dans le groupe France aujourd'hui? On met de côté, attends, on met de côté l'homme apprécié, ambianceur également, et Deschamps est très sensible à ça. On le sait, il aime avoir un groupe qui vit bien sur une compétition d'un mois. Vas-y, Paul.
Alors, je suis d'accord avec toi. Je vais même aller plus sur deux points. Comment dire? C'est-à-dire que effectivement, Deschamps, moi je me souviens, puisque comme je suis porteur de Monaco, c'est vrai que même l'épopée de 2004, il comptait sur l'ambiance. D'ailleurs, Julie, il avait dit à Julie, vas-y, si dis-leur d'aller à la mer, si tout le monde te suit, on va aller en finale. Et effectivement, même ceux qui avaient peur de l'eau, donc des joueurs comme Adebayor l'avaient suivi. Aujourd'hui, Thuram, Marcus Thuram, il y a deux choses dissociées. Il y a d'un côté le fils d'eux, c'est-à-dire toutes les attentes qu'on attend comme étant le fils de Lilian Thuram, avec, sachant que son père, quand même, c'est l'ancien recordman de l'équipe de France, champion du monde, finaliste de Coupe du Monde en 2006, champion d'Europe, un palmarès conséquent, que ce soit à Monaco, le Barça, la Juve, il a quand même une belle carrière derrière lui, donc quand même, on a cette attente-là. Mais après, on peut le dissocier, parce que théoriquement, c'est un buteur. Qu'est-ce que ça donne? Sa carrière, c'est un beau parcours dans la mesure où il part de Sochaux, il passe par Guingamp, Mönchengladbach, l'Inter, il y a quand même un bon parcours construit. Le Borussia Mönchengladbach.
Oui, ça vaut,
je pense que Polo va.
Je parle de Mayence.
Vas-y, Paul.
Mais il a quand même un parcours intéressant, il a un bon buteur, c'est un bon finisseur. À l'Inter, c'est un tueur, tout est construit autour de lui. Mais en équipe de France, rien. Il y a rien. Pour moi aujourd'hui, il n'a plus sa chance parce que Deschamps a utilisé beaucoup de choses, il a testé, ça ne marche pas. Justement, on parlait de, j'entendais la Belgique et l'Allemagne. Oui, deux matchs références. Il a eu beaucoup de chance. Et derrière, il n'y a pas le rendement. On peut comparer aussi avec Ben Yedder, qui était en Ligue 1, qui était un tueur, qui était enfin quatrième meilleur buteur de l'histoire de Monaco. Mais en équipe de France,
on a compris qu'il y a un prisme monégasque un peu, ouais. Là, on part 2004, Julie Adebayor, ouais, on arrive sur Wissam Ben Yedder.
Mais ce que je veux dire, c'est que Thuram, il a eu sa chance. Ça ne marche pas, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Le plus important, c'est que l'équipe de France aille le plus loin possible, voire gagner la Coupe du Monde 2026. Donc, si Thuram, il a beau être l'ambianceur de l'équipe, sympathique, mais à un moment donné,
bien sûr,
il n'est pas là pour être juste le DJ de l'équipe. Il est
mais ce qui est frustrant, c'est que quand t'allumes un match de Serie A, le mec, c'est un super joueur.
C'est vraiment un autre contexte.
Mais dans ce système-là, il ne pourra pas. C'est un autre contexte, effectivement.
Et tu peux pas. Enfin, c'est très difficile de jouer à deux attaquants en fait avec l'armada offensive que t'as en équipe de France. Moi, je comprends ta frustration, mais Walid, t'as un autre joueur, alors, par peut-être Anthony Martial, dans l'histoire de l'équipe de France, qui a eu autant de chance que Marcus Thuram, sans produire. Vraiment, à part Martial, j'en vois pas. Ah. Pour moi, c'est vraiment. Quand je vois le nombre de chances qu'ont eu Lacazette, le nombre de chances qu'ont eu Ben Yedder, quand je vois le nombre de chances qu'ont eu Maté, quand eu
Ousmane Dembélé peut-être.
Oui, Ousmane Dembélé, il a atteint il a rejoint une telle galaxie en club que lui, il force les portes. Mais vraiment, pour moi, c'est le Anthony Martial en fait en équipe de France seulement de l'époque. C'est beaucoup beaucoup trop de chances.
De toute façon, avec les nouveaux jouets aujourd'hui à disposition de Deschamps, Colomboigny et Thuram, si les mecs ils sont à leur meilleur niveau par rapport à ce qu'ils forment, par rapport à ce qu'ils font en club, ça va être très compliqué.
Ouais, après, t'as parlé de Kitiki, on va voir s'il va jouer après l'arrivée d'Alexander Isak aussi. S'il va enchaîner les matchs,
le pauvre Kitiki, il fait un début de saison incroyable. Il se prend Isaac dans
une
la gueule.
Une doublure à 90 millions d'euros. Première ligue. Paul, merci.
Merci Paul.
Supporter monégasque. Bonne saison à toi sur le Rocher, bien sûr. Et de Mönchengladbach aussi. Bonne soirée à toi, Paul. À très vite sur RMC. Tiens, Deschamps, il a dit un truc important sur Marcus Thuram et le frère aussi. Écoutez, Kefren.
Qu'ils soient deux frères, oui, ça, ils le sont depuis qu'ils sont nés. Comme les frères Hernandez aussi sont deux frères.
Merci Didier, tu vas nous manquer dans 9 mois. Bonne soirée sur RMC avec nous. David, Elton et Walid, elle continue bien sûr, Génération After, dans un instant. Tiens, on va parler notamment de ce calendrier. Deschamps regrette, déplore qu'il soit trop resserré entre la fin de la saison en club et la Coupe du Monde. Mais est-ce que ça peut pas faire ses affaires justement? On va en débattre ensemble. Restez avec nous et sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Walid Acharchour, Elton Mokolo, David Guzman, merci d'être avec nous sur RMC en ce début de saison. On est là toute la saison, bien sûr, toute l'année, des gros événements, Ligue des Champions, la Coupe d'Afrique des Nations. On sera là, évidemment, pour la vivre 21 décembre, 17 janvier, avec un gros enjeu pour
beaucoup de sélections. Une année incroyable.
On va parler ce soir également, année incroyable. Et puis, bien sûr, en point d'orgue, la Coupe du Monde 2026, qu'on va suivre aussi, on espère, avec l'équipe de France, même si on va attendre la campagne de qualification, David.
Absolument.
Merci. Parlons de Konaté. Ibrahima Konaté, qui donc devrait débuter demain, puisque je vous rappelle l'absence notamment de William Saliba, oui. Blessé avec Arsenal dans ce début de saison. Konaté associé à Upamecano, c'est notre défense centrale de la Coupe du Monde 2022, titulaire quasi inamovible. Saliba s'est fait une place, lui, pour être titulaire.
Il y avait Varane quand même, non?
Varane. Mais non, c'est les
non, qu'est-ce que je raconte?
Les deux premiers matchs, c'est Konaté
Upamecano.
Varane revient.
Après,
il se fait contre l'Argentine.
Tout à fait.
C'est ça. Et bon. Il joue aussi à demi-finale, Konaté,
parce qu'il y a,
pour le coup,
suspension.
Tu m'interromps, mais
non, il est malade.
Le duo le plus aligné sur le mondial,
c'est Konaté
ou Upamecano.
D'accord.
Merci, Walid.
Pas contre l'Angleterre et contre l'Argentine, les deux gros matchs.
Ah, mais.
On va débattre après. Quelle est votre meilleure charnière, Konaté Saliba, Saliba ou Upamecano ou d'autres éléments? D'abord, on va écouter Didier Deschamps qui nous parlait de Ibrahima Konaté tout à l'heure en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il en pense de son rendement en équipe de France?
À ce moment-là où je vous parle, j'ai déjà effectué deux changements de joueurs, que vous savez, par rapport à la blessure de Ryan Cherki et William Saliba, qui sont malheureusement nets dans le sens où ça ne sera pas possible pour ce rassemblement. Il y a d'autres joueurs dont fait partie Ibou, Ousmane, qui doivent être vérifiés par le doc à leur arrivée, donc ils viennent là et... Mais j'ai pas les infos là, donc j'espère pas être amené à faire d'autres changements.
Et ça inspire.
Le son a été récupéré au gymnase Lola Grange.
C'est ça, le polyvalent. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Et Aimé Césaire de Bobigny.
Jules Ladoumec.
Ah, merci. Ouais, oui. Plus beau stade de Paris. Ouais, oui. Le 19e.
Jules Ladoumec. 19e. Voilà. Obligé.
Toi aussi?
Ah oui, je suis du 19e à base.
Tu m'as jamais dit ça.
Et hôpital Robert Debré.
Magnifique. Il est pas beau à l'extérieur, mais.
Ouais, pas beau. Mais...
Bon, visiblement, il a créé des génies, cet hôpital.
Ah ouais, d'accord.
Merci.
Je salue la roseraie d'Aubervilliers.
Avi Delton, j'attends beaucoup plus de Konaté en bleu cette saison.
Je pense avoir un peu de métier pour pouvoir gérer ces situations.
Écoute Nico,
dans un gymnase aussi apparemment.
Ouais. Écoute Nico, dimanche je me suis posé, il y avait bien évidemment le main event Arsenal Liverpool et même si le match il n'y a pas eu énormément de buts et il y a même le grand public qui a dit que c'était pas forcément un match excitant, je me suis quand même attardé sur les performances défensives et notamment celles du côté de Liverpool. Van Dijk évidemment a été extraordinaire, mais à côté de ça il y avait aussi Ibrahima Konaté qui a été vraiment très bon et moi il en est ressorti une frustration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Konaté, qui est très performant du côté de Liverpool, j'ai envie de le voir également performant en équipe de France. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là qu'il y a un problème avec Konaté, parce que en ce moment, c'est un joueur, ou plutôt sur la dernière année avec l'équipe de France, c'est un joueur qui a clairement du retard pour moi sur Saliba, sur Upamecano, qui ont sorti un très 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 gros euro en 2024. Et son année 2025 n'a pas été bonne. C'est bien simple. Il y a eu la défaite en Italie, il y a eu la défaite face à la Croatie au match aller quart de finale de Ligue des Nations et il y a eu la demi-finale contre l'Espagne où à chaque fois l'équipe de France a perdu et a pris beaucoup de buts et Konaté n'a pas été forcément performant. Alors Ibrahima Konaté, il entre dans sa troisième année en équipe de France, une troisième année où il doit s'affirmer parce que en fait il y a un côté contradictoire, à savoir que hors terrain c'est un joueur qui a un cadre bien établi, on le voit notamment sur les vidéos. Il a même eu le brassard du côté de l'équipe de France. Mais plus ça va, et moins les performances de Konaté sont satisfaisantes. Alors oui, on peut expliquer plusieurs choses, à savoir que il y a une charnière qui est déjà installée. En équipe de France, on n'a pas forcément le temps de travailler. Il y a pas beaucoup d'automatisme. Il n'empêche que Konaté, sur les trois matchs que j'ai cités, il a été à chaque fois aligné sur le match 1, pas forcément le match 2 où il y a beaucoup de rotations où on pourrait expliquer des choses. Donc c'est pour ça que sur cette rentrée, sur cette saison 2025-2026, je veux que les performances elles augmentent, à commencer par ce premier match contre l'Ukraine. Oui, c'est un premier match de rassemblement. Oui, il y a eu très peu de temps parce qu'il y a eu les premiers matchs officiels en club, il y a eu le mercato, mais toujours est-il que c'est à partir de ces matchs-là qu'Ibrahima Konaté doit faire mieux, être un joueur qui doit être aussi bien important sur et en dehors du terrain.
Bon. Qui veut réagir, David?
Oui, il doit être meilleur en club aussi, parce que moi, je l'ai trouvé très positif et très optimiste concernant son début de saison en club.
C'est vrai, tu fais bien d'en parler.
Parce que très franchement, sur l'égalisation de Semenyo contre Bournemouth, Semenyo lui fait danser la lambada sur 20 mètres. Ensuite, il est battu.
Sur un tcha-tcha-tcha.
voilà, ou la Macarena, mais bon, il est battu en fait sur, la, sur le 2-2 aussi à Newcastle sur la déviation du but d'Ozula. Il fait un charity shield absolument catastrophique et une fin de saison dernière compliquée. Donc il y a peut-être aussi cette situation contractuelle qui est toujours pas réglée. Il va rentrer comme Trent, comme Mossala, comme Van Dijk l'année dernière dans sa dernière année de contrat à Liverpool. Non, il a pas mal de soucis à régler. C'est vrai que moi, je vais plus loin.
Il était mieux contre Arsenal.
Mais c'est un match sur quatre. Mais c'est un match sur quatre de cette saison. Donc, moi, je vois aussi une contagion de ses performances en équipe de France, de performances à Liverpool. Je trouve que sa fin de saison dernière, elle est pas non plus excellente. Et j'attends bien mieux d'un des tout meilleurs défenseurs européens sur au moins les deux premiers tiers de la saison l'année dernière.
Moi, je vais pas paraphraser ce qu'ont dit les gars. Je suis totalement d'accord avec eux. Moi, j'en ai déjà parlé après la Croatie. Notamment où on se rappelle hein, mais c'est lui qui sort à la mi-temps hein.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas si t'en as parlé dans tous tes matchs, mais
j'ai parlé de la Croatie mais j'ai pas évoqué
mais sur le 2-0 Saliba fait un mauvais match, mais Deschamps sort Konaté à la mi-temps. Upamecano revient sur le deuxième match, ça fait 3-0, en tout cas ça fait 2-0 avec les pénaltys, la séance de tir au but avec un grand Mike Maignan. Donc il y a quand même beaucoup d'images qui vont pas dans le sens de Konaté. On lui souhaite de véritablement lancer son histoire avec l'équipe de France, parce que pour moi, humainement, ce qui dégage dans ce groupe et même à chaque déclaration avec l'équipe de France, c'est extraordinaire. Je vais pas tous les citer, mais il met une fraîcheur, une sincérité, une justesse dans ses propos qui est assez dingue. Mais il a aussi, il faut le dire, montrer les muscles en conférence de presse, notamment sur le côté sportif. Je me rappelle moi de l'après Coupe du Monde où il y avait des questions sur le capitanat post Mbappé avec ses histoires en Suède, etc. Il avait dit que lui il sentait légitime d'être le capitaine de l'équipe de France. Il faut pas oublier que Saliba lui grille la priorité après un match contre le Canada, il me semble, en prépa d'avant compétition à l'Euro, alors qu'à la base ça devait être Upamecano et Konaté, qu'il avait montré beaucoup de frustration pendant cet Euro-là. Et quand tu regardes depuis l'Euro, bah Elton vient de dénoncer tous les couacs de Konaté, ça commence à faire tâche. Alors on peut aussi lui souhaiter une espèce de trajectoire à la Upamecano, qui lui aussi, dans un premier temps en équipe de France, était en difficulté.
Ou à la Saliba.
Hein?
Ou à la Saliba.
C'est vrai qu'ils ont eu besoin de temps pour essayer de se mettre en place et de montrer l'étendue de leur talent. Parce que moi, quand Konaté arrive en équipe de France, j'y crois dur comme fer. Hein. Je monte au front en disant c'est celui qui va véritablement s'imposer en défense centrale. Force est de constater que je suis déçu. Qu'entre ce que j'attends et ce que je vois, il y a un vrai décalage. Maintenant, contre l'Ukraine, il y a encore avec la blessure de Saliba, il y a encore un test pour
Après attention, plutôt que de lancer son histoire, moi je dirais relancer, parce que les débuts de Konaté sont vraiment très bons.
Oui.
Moi je n'oublie pas que la Coupe du Monde 2022, pour moi, il est très très bon. La demi-finale contre le Maroc, il est très 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 performant. Et faut pas oublier que sur la campagne de l'Euro 2024, c'est lui qui est dans la charnière avec Upamecano. Ils ne prennent que 2 buts en qualification. Donc ça, c'est une stat qui plaît dans sa faveur.
À chaque fois que ça pue.
Mais maintenant arrive pour moi cette année 2024 qui est l'année bascule dans la carrière bleue de Konaté.
Bon, voilà sur Konaté. On vient dans un instant, les amis. Tiens, un mot sur les directs. Tiens, pour vous dire que la Belgique joue ce soir sur le terrain du Liechtenstein avec un Malik Fofana titulaire. On a déjà remis de sa blessure. Il démarre avec la Belgique. C'est une information importante pour les supporters lyonnais que l'Espagne mène déjà 1-0 en Bulgarie grâce à un but d'Oyarzabal. Et la Turquie a battu la Géorgie 3-2 malgré des buts de David Ashvili et de Varas Redia, mon Dieu.
Souvent des gros matchs Géorgie-Turquie. Il y avait déjà eu celui de l'Euro qui était
merveilleux, celui-là.
Merveilleux
match.
Dortmund.
C'est le match de l'Euro d'ailleurs. 0-0 entre la Slovaquie et l'Allemagne. Et c'est parti également pour la soirée qualification zone Afrique. On fera un point plus tard dans la soirée, justement. On reste avec nous, RMC Génération After, David Guzman, Elton Mokolo, Olivier Acharchour. À tout de suite sur RMC.